Chapitre 6. Œil de Lune. Œil de Lune est une petite ville fortifiée sise à la frontière entre les six duchés et le royaume des montagnes. C'est une halte traditionnelle d'approvisionnement pour les caravanes marchandes qui empruntent la piste de Kelika pour franchir le col de Large Combe et gagner les pays au-delà du royaume des montagnes. C'est à partir d'Œil de Lune que le prince Chevalerie négocia son dernier grand traité avec le prince Rurisque des Montagnes. Juste après la signature de ce traité, il fut découvert que Chevalerie était le père d'un fils illégitime conçu avec une femme de la région, et déjà âgé de 6 ans. Le roi servant Chevalerie conclut ses négociations et retourna aussitôt à Castelserre, où il présenta à sa reine, à son père et à ses sujets ses plus profondes excuses pour ce manquement de jeunesse, et renonça au trône pour éviter de jeter la moindre confusion dans la ligne de succession. Ronce tint parole. Le jour, je marchais, flanqué par des gardes, les mains attachées dans le dos. La nuit, je logeais dans une tente et on me déliait les poignets afin que je puisse me restaurer. Nul ne se montrait inutilement cruel envers moi. J'ignore si Ronce avait interdit tout contact avec moi, ou si des récits sur le bâtard au vif, empoisonneur patenté, avait si bien circulé que personne ne se risquait à se frotter à moi. Toujours est-il que je n'eus guère à souffrir, durant le trajet qui m'a mené à Œil de Lune, que du mauvais temps et des rations militaires. On me tenait à l'écart des pèlerins, si bien que je n'avais aucune nouvelle de Caudron, d'Astérie, ni des autres. Et comme les gardes s'abstenaient de bavarder devant moi, je ne pouvais même pas compter sur les potins du camp pour en obtenir. Enfin, je n'osais pas en demander. Le seul fait de penser à la ménestrelle et à ce qu'on lui avait infligé me mettait le cœur au bord des lèvres, et je me demandais si une bonne âme aurait assez pitié d'elle pour lui redresser et lui éclisser les doigts, à condition que Ronce l'autorise. À ma grande surprise, je m'aperçus que je songeais souvent aussi à Caudron et aux enfants des pèlerins. Heureusement, il me restait Œil de Nuit. Mon second soir sous la garde de Ronce, après un dîner où j'avalais en hâte du pain et du fromage, on me laissa seul dans un coin d'une tente qui abritait 6 hommes d'armes. Les nœuds qui me liaient les poignets et les chevilles étaient serrés, mais pas au point de me faire mal, et on avait jeté une couverture sur moi. Mes gardes s'absorbèrent bientôt dans une partie de dés à la lueur de la bougie qui éclairait la tente. C'était un abri en bon cuir de chèvre, sur le sol duquel les hommes, soucieux de leur confort, avaient étalé des rameaux de cèdre, si bien que je ne souffrais pas trop du froid. J'étais courbattu, j'étais fatigué, et le repas m'avait rendu somnolent. Pourtant, je m'efforçais de rester éveillé et tendis mon esprit vers Œil de Nuit, inquiet de ce que j'allais trouver. Je n'avais perçu que d'infimes traces de sa présence dans mon esprit depuis que je l'avais fait s'endormir. Je le contactai et m'aperçus avec un choc qu'il était tout proche de moi. Il m'apparut comme franchissant un rideau, et ma stupéfaction sembla l'amuser. « Depuis combien de temps sais-tu faire ça ?»«
Depuis un moment déjà. J'ai réfléchi à ce que nous avait dit l'homme ours, et quand nous nous sommes séparés, j'ai compris que j'avais une existence à moi. J'ai trouvé un lieu à moi dans mon esprit. »
Je sentis en lui une hésitation, comme s'il pensait que j'allais le réprimander. Bien au contraire, je l'étreignis et l'enveloppai dans la chaleur qu'il m'inspirait.
J'avais peur que tu ne meures. Je crains la même chose pour toi aujourd'hui.
Et il ajouta presque humblement.
Mais je m'en suis sorti. Et maintenant, au moins, l'un de nous est libre pour sauver l'autre.
Je suis soulagé que tu n'aies rien. Mais j'ai peur que tu ne puisses pas faire grand-chose pour moi. Et si les soldats te voient, ils n'auront de cesse qu'ils ne t'aient abattu.
Alors, ils ne me verront pas.
Répondit-il avec désinvolture. Il m'emmena chasser avec lui cette nuit-là. Le lendemain, il me fallut toute ma concentration pour marcher sans tomber, car une tourmente s'était levée. Nous tentions de conserver un pas militaire malgré les pistes enneigées que nous suivions et les vents hurlants qui nous bousculaient et menaçaient neige. Comme nous nous éloignions de la rivière et commencions de gravir les piémonts, la végétation se fit plus dense, et si nous entendions toujours le vent à la cime des arbres, nous le sentions moins. Le froid devenait plus sec et plus mordant la nuit à mesure que nous prenions de l'altitude. Ce qu'on me donnait à manger suffisait à me maintenir debout et en vie, mais guère davantage. Ronce à cheval était en tête de la colonne, suivi de sa garde montée. Je marchais derrière, au milieu d'autres gardes chargés de me surveiller. Ensuite, venaient les pèlerins escortés par des soldats réguliers, et enfin, le train de bagages. À la fin de chaque journée, on m'isolait dans une tente rapidement dressée, on me donnait à manger, puis on ne s'occupait plus de moi jusqu'à l'aube suivante. Mes conversations se limitaient à quelques mots lorsqu'on m'apportait mes repas et aux échanges de pensées avec œil de nuit. La rive où nous nous trouvions était giboyeuse comparée à l'autre. Le loup trouvait à s'y nourrir sans mal, et il était en bonne voie de retrouver sa vigueur d'antan. Il n'éprouvait aucune difficulté à soutenir notre allure tout en chassant. Il venait d'éventrer un lapin lors de ma quatrième nuit de captivité, quand il leva soudain la tête pour humer le vent. « Qu'y a-t-il ? » ?»«
Des chasseurs, à l'affût !»
Délaissant son repas, il se dressa. Il se trouvait sur le versant d'une colline au-dessus du camp de ronces. Une vingtaine au moins de silhouettes sombres s'approchaient des tentes en se glissant d'arbre en arbre. Une dizaine d'entre elles étaient armées d'arcs. Deux s'accroupirent sous le couvert d'un taillis plus épais que les autres, et quelques instants plus tard, le museau sensible d'œil de nuit détecta une odeur de fumée. Un feu réduit brillait d'un éclat sourd au pied des deux personnages. Ils firent des signes à leurs compagnons qui se déployèrent, silencieux comme des ombres. Les archers cherchèrent des positions à la vue dégagée, tandis que les autres pénétraient inaperçus dans le camp. Certains se dirigèrent vers l'attache des animaux. Par mes propres oreilles, je captais des bruits de pas discrets, près de la tente où je gisais ligoté. Mais ils ne s'y arrêtèrent pas. Œil de nuit perçut une odeur de pois qui flambait. Une seconde après, deux traits enflammés traversaient la nuit et frappaient la tente de ronces. Il y eut un grand cri, et aussitôt des soldats endormis sortirent de leur tente pour se précipiter vers le brasier, pendant que les archers de la colline lâchaient sur eux une pluie de flèches. Ronce jaillit de la tente en proie aux flammes, en s'enveloppant dans ses couvertures et en beuglant des ordres.
« C'est le bâtard qu'ils veulent ! Bande d'imbéciles ! Gardez-le à tout prix !»
Une flèche ricocha près de lui sur le sol gelé. Il poussa un cri et se jeta à plat ventre derrière un chariot de vivres. L'instant suivant, deux nouvelles flèches se plantaient dans le bois du véhicule. Les hommes qui partageaient ma tente s'étaient dressés dès le début de l'échauffourée. Je ne leur avais guère prêté attention, préférant le point de vue qu'œil de nuit m'offrait des événements. Mais quand le sergent entra brusquement, son premier ordre fut
« Sortez-le d'ici avant qu'il foute le feu à la tente. S'ils essayent de le prendre, coupez-lui la gorge !»
Les instructions du sergent furent suivies à la lettre. Un homme me mit un genou sur le dos et appliqua la lame de son poignard sur ma gorge, et six autres nous encerclèrent. Alentour, dans l'obscurité, d'autres hommes luttaient et poussaient des cris. Une clameur s'éleva quand une deuxième tente prit feu, imitant celle de Ronce qui flambait à présent joyeusement en illuminant efficacement son coin du camp. Quand je voulus lever la tête pour voir ce qui se passait, le jeune soldat agenouillé sur moi me rabattit énergiquement le visage contre le sol gelé. Je me résignai à la glace et au gravier et observai la suite des événements par les yeux du loup. Si les gardes de Ronce ne s'étaient pas tant appliqués à me surveiller et à protéger leur maître, ils se seraient peut-être rendus compte que nous n'étions ni l'un ni l'autre la cible de l'attaque. Tandis que les flèches pleuvaient autour de Ronce et de sa tente en flammes, à l'autre extrémité du camp, plongés dans l'obscurité, les assaillants silencieux étaient occupés à détacher contrebandiers, pèlerins et poneys. Le regard d'œil de nuit m'avait révélé que l'archer qui avait mis le feu à la tente de Ronce portait aussi clairement que Nick les traits de la famille Grappin. Les contrebandiers étaient venus sauver leurs frères. Les captifs s'échappèrent du camp comme de la farine d'un sac percé, pendant que les gardes nous défendaient, Ronce et moi. L'artiseur ne s'était pas trompé dans son évaluation de ces hommes. Beaucoup attendirent la fin des hostilités à l'abri d'un chariot ou d'une tente. Ils se fussent sûrement bien battus s'ils avaient été attaqués personnellement, mais aucun ne se risqua à mener une sortie contre les archers de la colline. Un soupçon me vint alors. Le capitaine Mark n'était peut-être pas le seul à avoir conclu un arrangement avec les contrebandiers. Les ripostes des soldats, quand il y en avait, étaient inefficaces, car l'éclat des brasiers les gênait pour voir dans la nuit, alors qu'ils faisaient des cibles parfaites des archers royaux qui se dressaient pour répondre aux traits des contrebandiers. Tout fut terminé en un temps étonnamment bref. Les archers de la colline continuèrent à nous arroser de flèches, tout en battant en retraite. Et cette grêle retint toute l'attention des hommes de Ronce. Quand elle cessa brusquement, Ronce appela son sergent à grand beuglement et lui demanda d'un ton menaçant si j'étais toujours là. Le garde se tourna vers ses hommes avec un regard d'avertissement, puis répondit qu'ils avaient réussi à empêcher qu'on s'empare de moi. Le reste de la nuit fut un cauchemar. J'en passai une bonne partie la figure dans la neige, tandis qu'un ronce à demi-nu rageait et tapait du pied autour de moi sous prétexte que la plupart de ses affaires avaient disparu dans l'incendie de sa tente. Quand l'évasion des pèlerins et des contrebandiers fut découverte, elle parut de second plan, comparée au fait que personne n'avait de vêtements à sa taille. Trois autres tentes étaient parties en fumée, et le cheval de ronce avait été volé en même temps que les poneys des contrebandiers. Malgré des menaces de terrible vengeance proférées à grand rugissement, il ne fit rien pour organiser une poursuite, et se contenta de me donner des coups de pied à plusieurs reprises. L'aube était presque là quand il pensa à demander si la ménestrelle avait disparu elle aussi. Elle avait disparu. Cela, déclara-t-il, était la preuve que c'était bien après moi qu'ils en avaient. Il tripla la garde autour de moi pour le reste de la nuit et les deux journées de trajet jusqu'à Œil de Lune, mais nous ne revîmes pas nos assaillants, ce qui n'avait rien de surprenant. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient et s'étaient évaporés dans les piémonts. Sans doute Nick disposait-il aussi de cachettes sur la rive où nous étions. L'homme qui m'avait vendu ne m'inspirait aucune chaleur, mais je ne pus m'empêcher de l'admirer d'avoir emmené les pèlerins durant son évasion. Peut-être Astérie pourrait-elle en tirer une chanson. Œil de Lune paraissait une petite bourgade cachée dans les plis des jupes des montagnes. Les fermes étaient rares alentour, et les rues pavées commençaient brusquement au niveau de la palissade en bois qui ceignait la ville. Une sentinelle nous interpella pour la forme du haut d'une tour qui se dressait au-dessus de la barricade, et c'est seulement après l'avoir franchie que je me rendis compte de la prospérité du bourg. Par mes leçons auprès de Gérepu, je savais qu'Œil de Lune avait été un important poste militaire des Six-Duchés avant de devenir une halte pour les caravanes à destination des montagnes et au-delà. Aujourd'hui, les marchands d'ambre, de fourrure et d'ivoire sculpté passaient régulièrement par Œil de Lune et l'enrichissaient. Du moins, était-ce le cas depuis que mon père avait réussi à négocier l'ouverture d'école avec le royaume des montagnes. La politique d'hostilité de Royal avait changé tout cela. Œil de Lune était redevenue la place militaire qu'elle était du temps de mon grand-père. Les soldats qui arpentaient les rues portaient l'or et le brun de Royal au lieu du bleu de Serre, mais c'étaient néanmoins des soldats. Les marchands avaient l'air las et méfiants d'hommes qui n'étaient riches que par la grâce de leur souverain, et qui se demandaient si cela serait profitable à long terme. Notre procession attira l'attention des habitants, mais ils ne nous manifestèrent qu'une curiosité subreptice, et je m'interrogeais. Depuis quand portait-il malheur de s'occuper de trop près des affaires royales ? Malgré ma fatigue, j'observais la ville avec intérêt. C'était là que mon grand-père m'avait amené pour m'abandonner à la charge de Vérité, et où Vérité m'avait confié à Burick. Je n'avais jamais su si la famille de ma mère vivait près d'Œil de Lune ou s'il nous avait fallu voyager loin pour trouver mon père. Mais c'est en vain que je cherchais un indice ou un signe qui réveilla quelques souvenirs de mon enfance disparue. Œil de Lune restait pour moi aussi étrangère et familière à la fois que toutes les bourgades que j'avais traversées. La ville grouillait de soldats, des tentes et des abat-vents étaient dressés contre chaque mur. Apparemment, la population s'était brutalement accrue ces derniers temps. Nous pénétrâmes dans une cour que les animaux du train de bagages reconnurent comme leur foyer. Là, on nous fit mettre en rang, puis on nous dispersa avec une précision toute militaire. Mes gardes m'escortèrent jusqu'à un bâtiment bas en bois, sans fenêtres et rébarbatif. À l'intérieur, un vieil homme était assis sur un tabouret, devant un feu accueillant qui crépitait dans une vaste cheminée. Moins accueillantes étaient les trois portes percées de judas à barreaux qui donnaient sur trois autres pièces. On me fit entrer dans l'une, on coupa mes liens, et on me laissa seul. En matière de prison, j'en avais connu de beaucoup moins sympathiques. À cette réflexion, mes lèvres se retroussèrent en un rictus qui n'était pas tout à fait un sourire ironique. Il y avait un chalit en corde entrecroisée, et un sac de paille en guise de matelas, ainsi qu'un pot de chambre, dans un angle. Le judas laissait filtrer un peu de lumière et de chaleur, guère, mais la température était tout de même beaucoup plus agréable qu'à l'extérieur. Ma cellule n'avait pas la sévérité d'une véritable geôle, et je jugeais qu'elle devait servir à enfermer les soldats ivres ou qui causaient du désordre. Avec une curieuse impression, je retirai mon manteau et mes moufles, les posai dans un coin, puis je m'assis sur le lit et attendis la suite. Le seul événement marquant de la soirée fut le repas, constitué de viande, de pain et même d'une chope de bière. Le vieux ouvrit la porte pour me passer le plateau, et quand il vint le récupérer, il me remit deux couvertures. Je le remerciai. Il me parut surpris. Et je restai abasourdi quand il me dit
« Vous avez la voix et le regard de votre père. »
Puis, il me referma la porte au nez, presque précipitamment. Nul ne m'adressa plus la parole, et la seule conversation que je surpris fut les échanges de jurons et de plaisanteries de soldats qui jouaient au dé. D'après le timbre des voix, le vieux gardien devait se trouver en compagnie de trois hommes plus jeunes que lui. Comme le soir tombait, ils abandonnèrent leur dé pour bavarder à mi-voix. La stridence du vent ne me permettait pas d'entendre grand-chose. Aussi finis-je par quitter mon lit pour m'approcher sans bruit de la porte. Par le Judas, je n'aperçus pas moins de trois sentinelles en faction. Le vieux dormait sur son lit, dans un angle. Mais les trois hommes vêtus de l'or et du brin d'or royal prenaient leur mission au sérieux. Le premier était un adolescent sans poil au menton qui n'avait sans doute pas plus de 14 ans. Les deux autres avaient l'attitude de soldats aguerris. L'un d'eux avait le visage encore plus balafré que moi, un habitué des bagarres sans doute. L'autre arborait une barbe soignée et commandait manifestement ses deux camarades. Sans être sur le qui-vive, tous trois étaient en alerte. Le bagarreur taquinait le gosse qui affichait une mine morose. Ces deux-là ne s'entendaient pas. Puis, là de son petit jeu, l'homme se mit à débiner œil de lune à n'en plus finir. L'alcool était mauvais, les femmes pas assez nombreuses, et celles qui s'y trouvaient étaient aussi froides que l'hiver lui-même. Il aurait voulu que le roi tranche la laisse des soldats et les lâche sur les coupe-jarrets et les voleurs de la putain des montagnes. Il était sûr qu'il était possible de gagner Jaampe et de prendre en quelques jours cette forteresse en bois. À quoi bon attendre? Et ainsi de suite sur tous les tons. Ses compagnons hochaient la tête comme s'ils connaissaient sa litanie par cœur. Je m'écartai du Judas et me rassis sur mon lit pour réfléchir.
Joli cage!
Au moins j'ai bien mangé.
Pas aussi bien que moi. Ce qu'il te faudrait, c'est un peu de sang chaud dans ta viande. Comptes-tu bientôt t'échapper?
Dès que j'en aurai trouvé le moyen. Je passai quelque temps à explorer soigneusement ma cellule. Mur et sol en planches dégrossies, vieilles et dures comme du fer. Plafond en planches étroitement jointes que je parvenais à peine à effleurer du bout des doigts. Et la porte en bois, avec le Judas à barreaux. Si je devais sortir, ce serait obligatoirement par là. Je m'approchai du Judas.
Je pourrais avoir de l'eau ?
Demandai-je à mi-voix. L'adolescent sursauta violemment, à la grande hilarité du bagarreur. Le troisième garde me regarda, puis sans répondre, alla tirer une louche d'eau d'une barrique placée dans un coin de la pièce. Il revint près de ma porte et passa l'ustensile à travers les barreaux. Il me laissa boire, puis s'en repartit avec la louche. « Combien de temps est-ce qu'on va me garder ici ? » interpellai-je.
« Jusqu'à ta mort ! »
fit le bagarreur d'un ton assuré.
« On ne doit pas lui parler !» dit le gosse, tandis que le sergent lançait. « La ferme !»
L'ordre s'adressait aussi à moi. Je restais près de la porte à les observer, agrippé au barreau, ce qui mit visiblement le plus jeune mal à l'aise. En revanche, le bagarreur me surveillait avec la convoitise d'un requin qui tourne autour de sa proie. Il ne faudrait pas beaucoup le pousser pour lui donner envie de me frapper. Cela pouvait-il m'être utile? J'en avais par-dessus la tête de me faire rouer de coups, mais c'était la seule attitude à laquelle je montrais quelque talent depuis quelque temps. Je décidai de lancer le bouchon pour voir ce qui allait se passer.
« Pourquoi ne devez-vous pas me parler ? »
demandai-je. Ils échangèrent des regards.
« Écarte-toi de cette porte et tais-toi !»
dit le sergent.
« J'ai simplement posé une question, objectai-je d'un ton mesuré. Quel mal peut-il y avoir à me parler ?»
Le sergent se leva, et je me reculai aussitôt.
« Je suis enfermé et vous êtes trois. Je m'ennuie, c'est tout. Vous ne pouvez pas au moins me dire ce qu'on va faire de moi ?
Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on aurait dû faire la première fois qu'on t'a tué. On va te pendre au-dessus de l'eau. On va te découper en petits morceaux et on va les brûler, bâtard !»
répondit le bagarreur. Son sergent se tourna vers lui.
« La ferme !»
Il essaie de te faire parler, crétin. Plus personne ne lui adresse la parole. C'est comme ça que les magiciens du vif piègent les gens. Ils les font parler. C'est comme ça qu'il a eu peine et ses gars. »
Le sergent me lança un regard venimeux, qu'il reporta ensuite sur ses hommes. Ils reprirent leur poste et le bagarreur m'adressa un sourire sarcastique.
« Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté sur moi, mais ce n'est pas vrai, »
dis-je. Nul ne répondit.
« Écoutez, je ne suis pas différent de vous. Si j'étais un si grand magicien, vous croyez que je serais derrière ces barreaux ?»«
Non. On veut faire de moi un bouc émissaire, voilà tout. Vous savez comment ça marche. Quand quelque chose va de travers, il faut que quelqu'un porte le chapeau. Et c'est moi qui me retrouve dans le pétrin.
Allons, regardez-moi et pensez aux histoires que vous avez entendues. J'ai connu peine lorsqu'il était avec Royal à Castelserre.
Vous trouvez que j'ai l'air d'un gars qui peut se débarrasser de lui ?
Et je continuais ainsi durant la plus grande partie de leur faction. Je n'espérais pas vraiment les convaincre de mon innocence, mais je comptais les persuader qu'ils n'avaient pas à redouter de m'écouter, ni de me répondre. J'évoquais des épisodes malheureux de mon existence passée, certains qu'ils seraient répétés dans tout le camp. Quel profit j'en tirerais ? Je l'ignorais, mais pendant ce temps, je me tenais contre la porte, agrippé aux barreaux, qu'à mouvement infime, j'essayais de faire tourner dans leur logement. Mais s'ils bougeaient, c'était de façon imperceptible. La journée du lendemain me parut interminable. À chaque heure qui s'écoulait, j'avais l'impression que le danger s'approchait davantage. Ronce n'était pas venu me voir. Il me tenait certainement captif, en attendant que quelqu'un vienne le décharger de ma responsabilité. Et je craignais fort qu'il s'agît de Guillot. Je ne pensais pas que Royal confiât mon transport à qui que ce fût d'autre. Je ne tenais pas à me trouver à nouveau face à lui. Je ne me sentais pas la force de lui résister. Je passais la journée à essayer de déceler les barreaux et à observer mes gardiens. Le soir venu, j'étais prêt à tenter ma chance. Après un dîner composé de fromage et de gruaux, je m'étendis sur mon lit et me concentrai pour artiser. Je baissai prudemment mes murs dans la crainte de trouver Ronce derrière. Puis, je tendis mon art, mais je ne ressentis rien. Je me concentrai à nouveau et réessayai, toujours en vain. J'ouvris les yeux dans l'obscurité de ma cellule. Quelle injustice! J'en avais le cœur au bord des lèvres. Les rêves d'art m'emportaient quand bon leur semblait, mais à présent que je cherchais le fleuve d'art, il restait insaisissable. Je fis encore deux tentatives, après quoi une migraine pulsatile me contraignit à renoncer. Ce n'était pas l'art qui m'aiderait à me sortir de ma prison.
« Reste le vif !» fit Œil de Nuit.
J'eus la sensation qu'il était tout proche.
Franchement, je ne vois pas en quoi il me serait utile,
répondis-je.
Moi non plus. J'ai creusé un trou sous l'enceinte, au cas où tu arriverais à sortir de ta cage. Ça n'a pas été facile, parce que la terre est gelée et que les troncs de la palissade sont profondément enfoncés. Mais si tu réussis à quitter ta cage, je peux te faire sortir de la ville.
Sage initiative, le complimentai-je. Au moins l'un de nous ne restait pas les bras croisés.
Sais-tu où j'agite cette nuit ?
Je perçus un amusement contenu dans sa question.
Eh bien, où gîtes-tu ?
Demandai-je pour ne pas gâcher son plaisir.
Sous tes pieds. J'avais juste la place de m'y glisser. Œil de Nuit, c'est de la folie. On risque de te voir ou de découvrir tes traces. Des dizaines de chiens ont couché ici avant moi. Personne ne remarquera mes allées et venues. J'ai profité de la tombée de la nuit pour visiter une bonne partie de cette garenne d'hommes. Il y a un espace vide en dessous de tous les bâtiments. Il est très facile de se faufiler de l'un à l'autre.
« Fais quand même attention, » lui dis-je, sans pouvoir nier un certain réconfort à le savoir si près de moi. Je passais une nuit agitée. Les trois gardes restaient de marbre avec moi. J'essayais mon charme sur le vieux, le lendemain matin, lorsqu'il me donna une chope de tisane et deux bouts de pain dur. « Ainsi, vous avez connu mon père, » lui dis-je, alors qu'il glissait mon petit déjeuner par le Judas.
Moi, je n'ai aucun souvenir de lui. Je ne l'ai jamais rencontré.
Eh bien, réjouissez-vous,
répliqua le vieux d'un ton sec.
Connaître le prince, ça ne voulait pas dire l'aimer.
Raide comme un passe-lacet qu'il était.
Les règles et les ordres, c'était bon pour nous. Pendant qu'il allait faire des bâtards à droite et à gauche. Oui, j'ai connu votre père. Beaucoup trop à mon goût.
Et il s'en alla. Autant pour mes espoirs de m'en faire un allié. Je m'assis sur le lit avec mon pain et ma tisane, et je contemplais le mur accablé. Encore une journée écoulée, une étape de plus sur le chemin qui menait Guillot à moi, une journée qui me rapprochait du moment d'être ramené à Guédonégos, une journée qui me rapprochait de ma mort. Au plus froid et au plus noir de la nuit, Œil de Nuit me tira du sommeil.
De la fumée, beaucoup.
Je me redressais sur mon lit, puis j'allais au Judas et regardais au dehors. Le vieux dormait sur son lit de camp, l'adolescent et le bagarreur jouaient au dé, tandis que le troisième garde se curait les ongles avec son poignard. Tout était calme.
D'où vient la fumée? Veux-tu que j'aille voir?
Oui, s'il te plaît, sois prudent.
Comme d'habitude.
Du temps passa pendant lequel je surveillais mes gardes, collés au mur de ma cellule. Enfin, Œil de Nuit me recontacta.
« C'est un grand bâtiment qui sent le grain. Il brûle à deux endroits. »
« Personne n'a donné l'alarme ?»«
Non, les rues sont vides et noires. Cette partie de la ville est endormie. »
Je fermai les yeux pour voir ce qu'il voyait. Le bâtiment en question était un entrepôt de grain. On avait allumé deux feux à son pied. L'un brûlait sans flamme, mais l'autre commençait à escalader le mur de bois sec.
« Reviens. » Nous allons peut-être pouvoir tourner cet incendie à notre avantage. Attends.
Œil de Nuit s'engagea dans la rue en se glissant discrètement d'une maison à l'autre. Derrière nous, le feu gagna en puissance et se mit à crépiter. Le loup s'arrêta, huma l'air et changea de direction. Il se trouva bientôt devant un nouveau feu. Celui-ci dévorait avec empressement une meule de paille couverte d'une bâche à l'arrière d'une grange. De la fumée s'en échappait paresseusement. Soudain, une langue de flamme jaillit dans la nuit, et avec un énorme bruit de souffle, la meule tout entière s'embrasa. Des étincelles s'élevèrent dans le ciel, et certaines continuèrent à brûler, une fois retombées sur les toits avoisinants. « Ces incendies ne sont pas accidentels. Reviens tout de suite. » Œil de Nuit obéit promptement. En chemin, il aperçut un autre feu qui consumait un tas de chiffons imprégnés d'huile et fourrés sous l'angle d'une caserne. Une brise vagabonde encourageait les flammes dans leur exploration. Elles commençaient à grimper le long d'un pilier de soutènement et roulaient avec avidité sous le plancher. Le froid mordant de l'hiver avait desséché la ville de bois aussi efficacement que la chaleur de l'été, et des abat-vents et des tentes étaient accrochés entre les bâtiments. Si les incendies restaient encore quelque temps inaperçus, Œil de Lune ne serait plus que cendre au matin, et moi aussi, si je demeurais enfermé dans ma cellule.
« Combien de gardiens as-tu ?»«
4. Il y a aussi une porte fermée à clé. »«
L'un des hommes doit avoir la clé. »«
Attends. Voyons si nos chances ne vont pas s'améliorer, à moins qu'il ne décide de m'emmener ailleurs. » Dans la ville glacée, quelqu'un poussa soudain un grand cri. Le premier feu avait été repéré. Debout dans ma cellule, j'écoutais par les oreilles d'Œil de Nuit. Peu à peu, une clameur monta, et mes gardes finirent par se lever en se demandant les uns les autres.
Qu'est-ce qui se passe?
L'un d'eux, le bagarreur, alla ouvrir la porte. Une bouffée d'air froid qui sentait la fumée s'engouffra par l'ouverture. L'homme se retourna et dit
« On dirait qu'il y a un gros incendie à l'autre bout de la ville !»
Une seconde plus tard, ses deux compagnons étaient à ses côtés. Les propos tendus qu'ils échangeaient réveillèrent le vieux, qui alla lui aussi se renseigner à la porte. Dans la rue, quelqu'un passa au pas de course en criant
« Au feu! Il y a le feu à l'entrepôt de grains! Apportez des seaux !»
Le gosse regarda son officier.
« Vous voulez que j'aille voir ?»
L'homme hésita un instant, puis il céda à la tentation.
« Non, reste ici. Moi j'y vais, ouvre l'œil. »
Il s'empara vivement de son manteau et s'enfonça dans la nuit. Le gosse le suivit des yeux avec une expression déçue, puis il se campa dans l'encadrement de la porte et contempla l'obscurité. Soudain,
« Hé ! Il y a d'autres feux là-bas »
s'exclama-t-il. Avec un juron, le bagarreur saisit son manteau.
« Je vais jeter un coup d'œil !» Mais on a ordre de rester pour le bâtard.
Toi, tu restes. Je reviens tout de suite. Je veux juste voir ce qui se passe.
Il cria ces derniers mots par-dessus son épaule, tout en s'éloignant à la hâte. Le gosse et le vieux échangèrent un regard, puis le vieil homme regagna son lit et se rallongea. Son compagnon, lui, demeura à la porte. Quelques hommes passèrent en courant dans la rue, suivis par un attelage qui tirait un chariot au grand trot. Tous se dirigeaient apparemment vers l'incendie.
« Comment est-ce que ça se présente ? » demandai-je.
« On ne distingue pas grand-chose d'ici. Rien que des flammes derrière les écuries et plein d'étincelles qui s'envolent. »
L'adolescent était visiblement déçu de se trouver si loin de l'agitation. Il se rappela soudain à qui il parlait, rentra brusquement et ferma la porte.
« Ne m'adresse pas la parole !»
m'ordonna-t-il en allant s'asseoir.
« À quelle distance se trouve l'entrepôt ? »
fis-je. Mais il ne daigna même pas me lancer un regard et demeura les yeux fixés sur le mur.
« Parce que, » poursuivis-je sur le ton de la conversation, « j'aimerais savoir ce que vous comptez faire si le feu se propage par ici. »
« Je n'ai pas envie de mourir brûlé vif. On vous a laissé les clés, non ?»
Aussitôt, le gosse jeta un coup d'œil au vieux, dont la main esquissa un geste involontaire vers son sac, comme pour s'assurer qu'elles étaient toujours là. Mais ni l'un ni l'autre ne répondit. Debout, près du Judas, j'observais l'adolescent. Au bout d'un moment, il se leva et ouvrit la porte. Je vis ses mâchoires se serrer. Le vieux alla regarder par-dessus son épaule.
« Le feu s'étend, c'est ça ?»«
C'est terrifiant, un incendie en hiver. Tout est sec comme de l'os. »
Le jeune me regarda sans répondre. La main du vieux s'approcha du sac qui contenait la clé.
« Liez-moi les mains et allons-nous-en d'ici. Il ne s'agit pas de nous trouver dans ce bâtiment si l'incendie arrive jusqu'ici. »
Un coup d'œil du gosse.
« Je ne suis pas fou, » répondit-il. « Je ne tiens pas à me faire exécuter pour t'avoir libéré. »
« Crie dans ton trou, bâtard. Moi, je m'en fous !» ajouta le vieux.
Il passa la tête par la porte. Malgré la distance, j'entendis le bruit de souffle d'un édifice qui s'écroulait dans une éruption de flammes. Le vent apportait désormais une forte odeur de fumée, et je vis le gosse se tendre. Un homme passa en courant devant la porte ouverte et cria à l'adolescent qu'on se battait sur la place du marché. D'autres hommes suivirent dans un cliquetis d'épées et d'armures légères. Des cendres volaient dans l'air à présent, et le rugissement des flammes couvrait le bruit des rafales de vent. Le ciel était gris de fumée. Tout à coup, le gosse et le vieux reculèrent précipitamment dans la pièce, et Œil de Nuit apparut, tout croc dehors, dans l'encadrement de la porte, rendant impossible toute fuite des deux hommes. Le grondement qu'il émettait était plus fort que le crépitement des flammes. « Ouvrez la porte de ma cellule, et il ne vous fera pas de mal, » dis-je. Mais non sans courage, le gosse dégaina son épée, puis, sans attendre que le loup s'approche, il se jeta sur lui la lame pointée, et l'obligea à battre en retraite. Œil de Nuit évita l'attaque sans difficulté, mais la porte était maintenant libre. L'adolescent poursuivit son avantage et sortit pour assaillir encore le loup. Aussitôt, le vieux referma la porte derrière lui.
« Vous comptez rester ici et brûler vif en ma compagnie ?»
demandai-je d'un ton dégagé. En un instant, sa décision fut prise.
« Crame tout seul !» cracha-t-il.
Puis il rouvrit la porte et s'enfuit dans le noir.
« Œil de Nuit, le vieux qui se sauve, c'est lui qui a la clé. Je le rattrape !»
J'étais maintenant seul dans ma geôle. Je m'attendais peu ou pro à voir le jeune revenir, mais je me trompais. Agrippant les barreaux du Judas, je secouais violemment la porte. C'est à peine si elle bougea. En revanche, un des barreaux paraissait remuer légèrement, et je tirai dessus en m'appuyant des deux pieds sur la porte afin d'y mettre tout mon poids. Une éternité plus tard, une des extrémités se délogea, et j'entrepris de tordre la barre de métal d'avant en arrière jusqu'au moment où elle céda. Cependant, même si j'arrachais tous les barreaux, l'ouverture resterait trop étroite pour me livrer passage, et j'eus beau faire, la tige de métal que je tenais était trop grosse pour s'enfoncer dans les lézardes du mur. Impossible de desceller la porte. L'air empestait à présent la fumée. L'incendie se rapprochait. Je cognai de l'épaule contre le battant, mais il n'eut pas un frémissement. Passant le bras par le Judas, je tâtonnai vers le bas, les doigts tendus, je touchai une épaisse barre de métal que je suivis jusqu'au verrou qui la maintenait en place. Je pouvais l'effleurer, mais pas davantage. La température de la cellule montait-elle, ou mon imagination me jouait-elle des tours ?
À l'aide de mon barreau arraché, je frappai à l'aveuglette sur le verrou et les ferrures qui le fixaient quand la porte extérieure s'ouvrit. Une garde en or et brun entra à grands pas en annonçant « Je viens chercher le bâtard !» Et puis elle vit que la salle était vide. L'instant d'après, elle rejetait sa capuche en arrière et dévoilait son visage. C'était Astérie. Je la regardais bouche bée.
« C'est plus facile que je ne l'escomptais !» me dit-elle avec un sourire farouche.
Sur ses traits tuméfiés, on eût dit un rictus effrayant.
« Pas sûr !» répondis-je d'un ton hésitant. « La cellule est fermée à clé. »
Son expression passa du sourire à la consternation.
« L'arrière du bâtiment commence déjà à fumer. »
D'un geste vif de sa main indemne, elle s'empara de mon barreau. Mais alors qu'elle s'apprêtait à l'abattre sur le verrou, Œil de Nuit s'encadra dans la porte. Il entra et laissa tomber le sac du vieux sur le plancher. Le cuir était luisant de sang. Je contemplais le loup, soudain horrifié.
« Tu l'as tué ?»«
Je lui ai pris ce dont tu avais besoin. Dépêche-toi. L'arrière de ta cage brûle. »
Pendant un instant, je demeurai incapable de réagir. Je regardais Œil de Nuit en me demandant ce que j'étais en train de faire de lui. Il avait perdu un peu de sa pureté sauvage. Les yeux d'Astérie passaient alternativement de lui à moi et de moi au sac de cuir. Elle ne faisait pas un geste.
Et tu as perdu un peu de ce qui fait de toi un homme. Nous n'avons pas le temps, mon frère. Ne tuerais-tu pas un loup si ça devait me sauver la vie ?
Aucune réponse n'était nécessaire. La clé est dans le sac, dis-je à Astérie. Pendant quelques secondes, elle regarda l'objet sans bouger, puis elle s'accroupit et sortit la lourde clé de fer du sac. Elle l'inséra dans le trou de la serrure, et je formai le vœu de n'avoir pas trop abîmé le mécanisme. Elle fit tourner la clé, libéra le loquet d'une secousse et souleva la grosse barre. Comme je sortais de ma cellule, elle me dit
« Prenez les couvertures, vous en aurez besoin. Il fait un froid de chien. »
En allant les chercher en même temps que mon manteau et mes moufles, je sentis la chaleur qui radiait le mur du fond. De la fumée commençait à filtrer par les interstices des planches. Nous nous sauvâmes, le loup sur les talons. Dehors, nul ne fit attention à nous. L'incendie n'était plus maîtrisable. Il tenait la ville et courait où bon lui semblait. Les gens que je vis s'occupaient égoïstement de sauver leurs biens et leurs peaux. Un homme nous croisa avec une brouette chargée d'affaires sans même chercher à nous mettre en garde. Je me demandais si le contenu de son véhicule était à lui. Plus loin, dans la rue, des écuries brûlaient. Des palefreniers affolés faisaient sortir les chevaux, mais les hennissements des animaux encore enfermés et en proie à la terreur étaient plus stridents que le vent. Dans un vacarme étourdissant, un bâtiment s'écroula en face de nous, en nous envoyant un terrifiant soupir d'air et de cendres brûlants. Le vent avait propagé le feu à travers tout Œil de Lune. Il sautait de maison en maison et les rafales transportaient des étincelles et des escarbilles jusque dans la forêt, par-delà les palissades. La neige ne serait peut-être pas assez épaisse pour les éteindre.
« Venez vite !»
cria Astérie d'un ton furieux, et je m'aperçus que j'étais planté dans la rue, bouche bée. Serrant les couvertures contre moi, je la suivis sans un mot. Nous parcourûmes au pas de course les rues de la ville en flammes. Elle paraissait connaître son chemin. Nous arrivâmes sur un carrefour où un combat avait lieu. Quatre cadavres jonchaient la chaussée, tous aux couleurs de Bauge. J'interrompis ma course le temps de récupérer sur l'un d'eux, celui d'une femme, un poignard et une bourse. Nous approchions des portes de la ville quand un chariot s'arrêta près de nous, dans un bruit de ferraille. Les chevaux qui le tiraient étaient mal assortis et couverts d'écume.
« Montez !»
nous cria une voix. Astérie obéit sans une hésitation.
« Caudron ? »
fis-je.
« Taisez-vous !»
répliqua-t'elle. Je grimpai dans le chariot et le loup me rejoignit d'un bond souple. Sans attendre que nous soyons installés, elle fit claquer les rênes et la voiture repartit brutalement. Devant nous se dressaient les portes, grandes ouvertes, sans personne pour les garder. Elles pivotaient sur leurs gonds au gré du souffle de l'incendie. Près de l'une, j'aperçus un corps étendu par terre. Caudron ne fit même pas ralentir l'attelage. Nous sortîmes sans un regard en arrière et nous engageâmes sur la route obscure pour rallier la horde de ceux qui fuyaient la destruction avec des carrioles et des brouettes. La plupart semblaient se diriger vers les rares fermes de la région afin d'y trouver refuge pour la nuit, mais Caudron poussait toujours les chevaux.
Comme autour de nous la nuit s'épaississait et les fuyards devenaient moins nombreux, elle lança les bêtes à un pas plus rapide. Je scrutais l'obscurité devant nous. Soudain, je m'aperçus qu'Astérie, elle, regardait en arrière.
« Ce ne devait être qu'une diversion, » murmura-t-elle d'une voix altérée.
Je me retournai. La palissade d'œil de lune se découpait, noire, sur un immense embrasement orange. Au-dessus, des étincelles montaient dans le ciel obscur, denses, comme des essaims d'abeilles, et le rugissement des flammes évoquait un vent de tempête. Un bâtiment s'effondra sur lui-même en soulevant un mascaret d'étincelles. Une diversion. Je tentai de la dévisager dans le noir. C'est vous qui avez déclenché ça, pour moi. Astérie m'adressa un regard amusé.
Je regrette de vous décevoir, mais non.
Caudron et moi étions de la partie pour vous chercher, mais ce n'était pas le but de ces incendies. La plupart sont l'œuvre de la famille de Nick, en représailles contre ceux qui les ont abusés. Ils sont entrés, ils les ont trouvés, ils les ont tués, et puis ils sont repartis.
Elle secoua la tête.
Même si je connaissais tous les tenants et aboutissants, ce serait trop compliqué à expliquer ici. Manifestement, la corruption régnait parmi les gardes royaux d'œil de lune depuis des années. Ils étaient grassement payés pour fermer les yeux sur les contrebandiers de la tribu Grappin. Et ceux-ci veillaient à ce que les hommes en poste profitent des meilleures choses de la vie, et si j'ai bien compris, le capitaine Mark se taillait la part du lion. Il n'était pas le seul à profiter de cette manne, mais il était ladre dans sa répartition des bénéfices. Et puis, Ronce a été envoyé sur place. Il ignorait tout de l'arrangement, il amenait un vaste corps de soldats avec lui, et il a voulu imposer une discipline militaire sur la région. Nick vous a vendu à Mark, c'est vrai, mais, dans l'opération, quelqu'un a vu l'occasion de livrer Mark à Ronce, et Ronce a vu l'occasion de vous capturer et d'éliminer une organisation de contrebandiers. Cependant, Nick Grappin et sa tribu avaient versé de solides pots de vin contre l'assurance d'un voyage sans risque pour les pèlerins. Du coup, quand les soldats ont manqué à leur parole envers lui, sa promesse aux pèlerins s'est trouvée rompue elle aussi. Elle secoua la tête et reprit d'une voix tendue. Certaines des femmes se sont fait violer. Un enfant est mort de froid. Un homme ne marchera plus jamais parce qu'il a tenté de protéger son épouse. Pendant un moment, il n'y eut d'autre bruit que le ferraillement du chariot et le lointain rugissement des flammes. Astérie regardait la ville incendiée avec des yeux très noirs.
« Vous avez entendu parler de l'honneur des voleurs ?
Eh bien, Nick et ses hommes ont lavé le leur. » Je contemplais moi aussi la destruction d'œil de lune. Je me souciais comme d'une guigne du sort de Ronce et de ses Bogiens, mais il se trouvait aussi dans cette ville des marchands, des boutiquiers, des familles, des foyers, et les flammes les dévoraient tous. Et des soldats des Siduchés avaient violé leurs captives, se comportant comme des brigands sans foi ni loi, et non comme des gardes royaux. Des soldats des Siduchés qui servaient un roi des Siduchés. Je secouai la tête.
Subtil, les aurait tous fait pendre.
Astérie s'éclaircit la gorge.
« Ne vous faites pas de reproches, » me dit-elle. J'ai appris depuis longtemps à ne pas me rendre responsable du mal qu'on me fait. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était même pas la vôtre. Vous n'avez été que le catalyseur qui a précipité l'enchaînement des événements.
Ne m'appelez pas comme ça, fis-je d'un ton implorant.
Le chariot nous emportait toujours plus loin dans la nuit.